Merci Laetitia Gaillet, rendez-vous à midi pour d'autres infos. Bonjour, bienvenue, c'est le meilleur de la bande originale avec Leila Kadour-Boudadi, Daniel Morin, Albert Algou et Alison Wheeler. Au programme, la bande originale de Mylène de Monjou et en live, Radio Elvis et Calypso Rose. Le meilleur de la bande originale, c'est parti. Monsieur Olivier Marchal, ravi de vous accueillir. Ben, monsieur merci. Le Président.
Oui, oh là là.
Trop la classe.
Monsieur
ouais, President. Oui. Et en ce moment, être président, c'est pas...
Non, c'est pas...
C'est pas trendy.
Non, aux États-Unis, en tout cas, c'est pas tip-top.
Oh, même ici, c'est un peu compliqué.
C'est vrai, c'est compliqué, tu penses. Vous êtes président du jury de la fiction au festival de films
Luchon.
De télévision. Oui, mais c'est le festival Luchon. De création télévisuelle
oui,
de Luchon.
Voilà.
Qui est un très, très joli petit village dans les Pyrénées. Avez-vous compris, une fois pour toutes, Maréchal, pourquoi ?
Affirmatif,
Nagui. Olivier est notre invité.
Affirmatif, je viens de le dire. Je saurais dire.
Mais j'avais pas fini ma phrase.
Nous recevons Olivier Marchal, car comme le prouvent ses états de service, et à la différence de la bande de Bleu-Bit qui vous servent la soupe dans cette émission, Marchal, comme moi, est un type qui en a dans le froc. Un point commun que souligne notre troublante et quasi homonymie. Marchal, maréchal. À tel point que tout à l'heure, Nagui, quand vous êtes arrivé dans ce studio, 5 minutes à peine avant le début de l'émission, quand vous avez demandé à la cantonade et surtout à votre factotum et rédacteur en chef, Jean-Baptiste Bussière, au fait, JNB...
On balançait le nom, tous les noms de famille.
Au fait, JNB, c'est qui l'invité? Il faudrait quand même que je regarde la fiche que tu m'as préparée. Et quand Jean-Baptiste vous a répondu, l'invité, c'est Marchal, croyant entendre Maréchal, j'ai cru qu'enfin les instructions de Mathieu Gallet me concernant...
Mathieu Gallet.
On prononce toutes les lettres en français, monsieur Nagui.
La jouie.
Depuis qu'il m'a signé un CD, allait enfin être suivi des faits. Mais, pas de zombie, ma cache bono, que dalle, j'avais mal entendu. Faudrait que je demande à Annie Dupéret, qui était là l'autre jour, de me régler mon Audica. Et c'est Marchal, l'invité.
C'est moche.
C'est moche, mais
c'est petit.
C'est
non,
technique.
Je parlais de la vanne.
Je sais, Nagui, vous allez me dire que cette analogie entre Olivier Marchal et moi, le fait que nous ayons, lui et moi,
des problèmes pour lire.
Oui. de cataracte. Et surtout, que nous en ayons dans le froc n'a rien à voir avec sa venue, puisqu'il vient ici en tant, vous l'avez dit, président du jury de fiction du Festival des créations télévisuelles de Luchon. Ce n'est pas un petit village, comme vous avez dit, mais une ville. Les Pyrénées. Ouais, eh bien, détrompez-vous.
C'est vrai, c'est une ville.
Parce que pour présider ce jury, rien d'autre tel qu'un gars rompu en tant que comédien, scénariste et réalisateur. Un gars rompu des âges aux meilleures séries, Braco, Section Zéro, aux meilleurs téléfilms, Borderline, aux meilleurs films, Transiscal des Orfèvres, c'est lui, les Lyonnais, c'est lui, Carbone, c'est lui. Un gars à qui on ne l'a fait plus en matière de suspense et d'intrigue policière et qui sait de quoi il parle quand il s'agit de faire la différence entre une daube et une œuvre de qualité. Bref, si je me réjouis qu'Olivier Marchal soit tout à fait à sa place à Luchon, je regrette pour ma part de ne pas y avoir été invité. Non que je prétende à des compétences en matière de fiction télévisuelle, mais parce que dans les villes d'eau, comme on dit, et pas qu'à Vichy, je me sens chez moi. C'était en 1954, de retour d'Indo, car moi aussi, comme M. Marchal, jadis j'ai servi la France, libéré du camp de Gang Bang Phoc, horriblement mutilé du fessier par le général tensionnaire Suzy Wan, qui m'avait ôté 2 tranches de cul, j'avais été envoyé en cure thermale à Luchon, où pour apaiser la gêne occasionnée par le terrible handicap dont je suis hélas affligé depuis, je prenais des bains de boue assis. Enfin, je veux dire, assis dans la boue. Mais un matin, alors que pour passer le temps, pendant mon bain de siège, j'avais demandé à mon ordonnance, ding 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 ding, de me bourrer une bonne pipe, quand il l'a allumée, tout a pété. Le soufre et le dioxyde de carbone de la boue thermale avaient été surdosés par un infirmier coco, un pacifiste. Le remède se révéla donc pire que le mal, et depuis, j'ai encore plus de mal à rester assis. Aussi vais-je devoir me lever en vous souhaitant une bonne émission.
Merci.
C'est
merci
un peu facile, je sais.
Destin sur France Inter.
On m'a servi un bon café.
Est-ce que c'est justement ce qu'on vous demande, Olivier Marchal, en tant que président du festival de Luchon, de distinguer, vous avez dit quoi, la Marchal, la daube du bon polar
de l'œuvre de qualité.
Ben, c'est ça.
Bon polar.
Je n'aurais pas cette prétention, mon cher Nagui. Non, mais bon, moi, c'est un plaisir. Luchon, c'est déjà, comme j'ai pas pris beaucoup de vacances, donc ils ont insisté, donc ça me fait 5 jours à la montagne.
Il est franc, au moins.
Voilà.
Vous allez skier.
Comment?
Vous allez skier un petit peu.
Non, je skie pas. J'ai eu un très grave accident de ski. J'ai un centimètre et demi en moins à la jambe gauche à cause du ski.
Ah, donc, ça complique la chose.
À la jambe, je précise.
Et donc, moi aussi. Et donc,
non, c'est vrai. Donc, c'est le ski, c'est fini. Et Luchon, j'y allais quand j'étais petit faire des cures pour la sinusite.
Donc, voilà, qui marchait très bien. Moi, je l'ai fait pour les otites et la sinusite. Voilà.
Donc, c'est.
À Luchon aussi.
On a dû se croiser. On a dû se croiser.
Mais peut-être.
Non. Vous devez avoir 40 ans d'écart, donc je crois pas.
Justement, en tant que senior.
On n'est pas loin. 1958.
À 8 ans près.
Oui.
On peut y aller.
J'échange avec M. Marchand.
Oui.
Quand même.
Ouais, on est tous les deux du 14 novembre. On pourrait jouer aussi.
Exactement.
Tous les deux du 14 novembre.
C'est
comme Patrick Sébastien.
Je pense que les auditeurs s'éclatent là en ce moment. C'est un bon moment de radio que nous sommes en train de vivre.
Oui, c'est vrai.
Donc,
c'est
vous êtes président du jury. Vous aurez Bénédicte Delmas, Michael Youn, Christiana Reali, Nathaniel Méchali, Lucie Lucas, Julie de Balzac et Jean Labib. J'ai oublié Amine Liua, pardon, qui seront vos jurés. Ouais. Entre guillemets, vous avez déjà été président d'un jury ou c'est la première fois de votre vie?
Au festival de Beaune du Polar, ouais.
Voilà. Et alors ça marche comment? Tout le monde va en même temps voir tous les films ou vous les avez déjà tous vus?
On est obligé. Non, enfin là, pour la télévision, il y en a certains, on a des liens justement, on les regarde chez nous. D'autres qui sont obligatoires là-bas, des séances obligatoires. À Beaune, on avait 4 films, on voyait 4 films par jour. Ce qui, où il faut une vraie, parce que j'étais avec Guy Lecluiz et François-Xavier de Maison, donc on finissait assez tard. La nuit, on a dégusté pas mal de Bourgogne. Donc c'est vrai qu'il faut être à la séance de 10h. C'est celle-là la plus dure. Après, ça va. Non, mais c'est génial. En tout cas, Beaune, c'était une super expérience. Et après, on débat, on est pas souvent, on avait décerné le prix à Dans ses yeux, là, le film argentin qui est un chef-d'œuvre. Et qui a vu l'Oscar du meilleur film étranger, d'ailleurs. Bon, là, on a beaucoup plus de travail et, parce qu'il y a beaucoup plus d'œuvres à regarder.
C'est ça. Et puis, il y a cette nouvelle patte ou manière de faire les fictions françaises parce qu'elles ont quand même évolué. Il y a même un sondage récemment. Enfin, c'est pas un sondage, c'est une étude qui a prouvé que les séries françaises emportaient haut la main devant les séries américaines maintenant à la télévision en termes de succès.
Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais.
Non, ça tient à quoi, ça?
Disons que, il y a eu une prise de conscience quand même des chaînes où le public a, c'est vrai, il y a une exigence face à la pauvreté, on va dire entre guillemets, malheureusement du cinéma français qui pour moi a baissé. C'est vrai que la télé a pris une importance. On a de très bons acteurs, on a de très bons scénaristes, on a de très bons réalisateurs et les gens aiment bien se familiariser quand même avec leur
donc les fictions télé pour vous sont meilleures, non seulement meilleures mais meilleures que le cinéma.
Ouais. Au cinéma, regardez, sur 220 films les gens, ils vont en voir 5-10 sur les 220. Les autres, on ne sait même pas qu'ils existent. Ça s'adresse à un cinéma, un télo, pompeux. Enfin, vous voyez, c'est.
C'est aussi Olivier Marchal, parce qu'il faut faire la démarche d'aller au cinéma et il faut payer. Aussi. Or, la série est diffusée. En télévision, et donc elle est accessible à tous.
Mais franchement, il y a beaucoup de films français que vous avez envie de voir, enfin, très, très honnêtement, en long métrage.
Si, il y en a quand même.
De vous précipiter, il y en a 10, quoi, dans l'année, voilà, c'est en gros.
Non, vous êtes sévère. Non, moi je dirais qu'il peut y en avoir un toutes les
11.
2 semaines.
Ouais.
Non, je pense qu'il y a une vingtaine. Il y a une vingtaine de films qui, après, qui sont pas forcément faits pour rencontrer un énorme succès populaire, mais il y a des beaux films bien écrits.
Oui, mais ça, je suis d'accord. Mais disons, il y en a 20, alors, on va dire, sur 220.
Vous votez au César ou pas?
Non, c'est...
Pourquoi vous hésitez? Vous votez ou pas?
Non, je suis pas moi qui vote. Enfin, je reçois le coffret, mais Non, ça m'intéresse pas. Enfin, c'est une cérémonie qui m'intéresse pas. J'y ai été une fois et c'est une telle hypocrisie, c'est une telle jalousie, une telle méchanceté de tout le monde que ça n'a aucun intérêt.
Enfin, cette grande famille du cinéma.
Comme disait Georges Lautner, qui était mon pote, il disait c'est tout le monde s'encule, mais personne ne jouit, quoi. Donc, excusez-moi, on est sur France Inter.
On fait ça aussi.
On fera une soirée chez Nagui.
Mais moi, j'aime cette franchise.
Bah oui, au moins.
Non, mais c'est vrai.
Il a pas ça dans la poche.
Je vous assure, je n'ai vu que de la haine au César. Moi, j'y suis allé une fois. J'avais 8 nominations pour 36. Mais quand j'ai vu ça, c'est le festival de l'hypocrisie, quoi. Gérard Lanvin, qui est mon pote, il va plus au César du tout.
Vous pensez qu'il y a ceux qui ont la carte et ceux qui n'ont pas là-bas?
Ouais, ça.
Et vous avez pas un petit favori cette année?
Non, mais ça m'intéresse pas. Je sais même pas qui a été. Mais quand vous savez que, par exemple, je vais pas dire de nom, mais il y a certains acteurs et des producteurs qui se réunissent le soir des Césars pour dégueuler sur tout ce qu'ils voient et qui font des paris. Ils jouent de l'argent, quoi. Chez eux, ils font des soirées spéciales César.
Ça, c'est vrai.
Ils ont pas d'autre chose à foutre que. Ouais. Et moi, je raconte l'anecdote de mon père, le pauvre qui est décédé, mais quand j'ai été nominé, ils avaient pas Canal+, et lui, il avait mis un costume, une cravate pour aller regarder la télé chez les voisins.
Ah, c'est ce que j'étais nominé. La fierté.
Et c'est voilà. Et donc moi, c'est ça qui est joli, qui me touche. Voilà, c'est pas l'attitude. Enfin, on sait très bien que je suis pas en grand amour avec cette grande famille du cinéma français, mais j'adore ce métier.
On l'a mieux compris.
Mais c'est un milieu.
Donc ce que vous aimez, c'est raconter des histoires, ouais. Les filmer, ouais. c'est les personnages, ce sont les comédiens qui jouent. Ouais. Et c'est justement l'avantage de ce genre de festival. Et là, c'est que on y trouve tout ça, aussi bien les bons comédiens que les bonnes histoires.
Et j'imagine que pour vous, c'est un vivier incroyable aussi, parce qu'au-delà de votre rôle au sein de ce festival, c'est découvrir des scénaristes et vous donner peut-être des idées de collaboration future, c'est découvrir aussi de nouveaux visages. Est-ce que vous y allez aussi dans cet esprit-là, Olivier Marchal?
Moi, je regarde beaucoup les séries, les téléfilms, et j'ai un petit carnet où je note les acteurs que je repère, quoi. Ça m'est arrivé d'appeler des chefs opérateurs ou des scénaristes ou des metteurs en scène.
Après avoir vu leur travail.
Après avoir vu, c'est franchement.
C'est important de se tenir au courant de qui a de nouveau, qui débarque, qui a fait quoi.
Ah oui, quand même. Ouais. Non, mais là, le petit qui joue dans Guyane, par exemple, le petit Spinozzi, là, je l'ai remarqué là-dedans. Il est super, ce môme, quoi. Enfin, voilà, c'est.
Vous pourriez être avec votre réseau, toujours les mêmes potes, les mêmes techniciens, les mêmes comédiens. Et
j'ai
la bande.
Ça, oui, ouais. la bande alliée. Ouais. La bande alliée, elle est incontournable. Hein, parce que moi, j'aime faire plaisir aussi à mes amis. Et puis, je les aime aussi parce que. C'est des bons acteurs et c'est des bonnes personnes dans la vie, surtout. Voilà, de temps en temps, on fait rentrer dans la famille, on fait rentrer quelques...
On fait grandir la bande. Pour vous, les deux vont ensemble, un bon comédien, un bon acteur et forcément quelqu'un de bon humainement, ou il y a des gens qui sont des saloperies humaines, mais qui sont bons comédiens.
Il y en a très très bons qui sont des très très belles saloperies, oui, ça c'est...
Vraiment, on pense aux mêmes.
Oui, vous les connaissez.
Pas la peine de faire la promotion. Il y a Armel Deutsch qui sera, il y a des comédiens et des comédiennes qui seront présentes, Claire Kem, Julie Depardieu, Nicole Calfan, Guillaume Gallienne sera également parmi toutes les fictions en compétition.
Avec son Oblomov, j'ai hâte de découvrir ça.
Problème pour vous, ben, je vous le dis, président, il y a un problème, président, il y a un truc, parce que votre nouveau long métrage s'appelle Carbone, il sortira au mois de novembre, il y a Benoît Magimel et Laura
Smet.
Ouais. Problème pour vous, elle est en compétition dans deux téléfilms.
Aïe, aïe, aïe. Est-ce que c'est déontologique?
Bah, c'est ça le problème, quoi.
Non, mais je voterai en mon âme et conscience. Non, vraiment.
Le tournage de Carbone est fini?
Oui, je suis en montage, là.
Et alors, vous êtes content? Maintenant que vous voyez les rushs, maintenant que vous voyez...
J'ai déjà un film d'une heure 45, quoi. Il est le premier ours, comme on dit, qui est monté. Je suis content.
Il correspond à ce que vous aviez en tête?
Il est regardable, il est joli.
Il est regardable.
C'est bien. Est-ce qu'il fait partie des 20 qu'on pourra regarder?
Non, j'ai pas... Encore une fois, je regarde une émission avec Bertrand Blier ce matin, parce que sur Patrick Devers, là, il y avait Blier que j'adore, moi, et qui disait qu'il regardait pas ses films et que de temps en temps, il s'en faisait un tous les 5. Quand il regardait 20 minutes pour voir s'il avait bien vérifié qu'il avait fait une grosse merde. Donc c'est Bertrand Blier avec ses mots à lui, quoi. Ouais. Et j'ai trouvé ça assez humble de la part de ce grand monsieur qui a du mal à faire ses films aujourd'hui, quand même. Donc il faut quand même le signaler. Et c'est pas normal, quoi.
Non. La télévision a cet avantage, en tout cas peut-être pour les gens du métier, ou cet inconvénient d'aller plus vite. Inconvénient, ils vont plus vite, ils ont moins de temps, moins de budget que cinéma. Avantage, on est dans une espèce d'énergie, on peut plus coller à l'actualité, coller à un fait divers, coller à l'ère du temps, à la société. Votre film sortira au mois de novembre.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe si, là, à Luchon, vous voyez un film qui raconte qu'un bonhomme qui a une entreprise met au point une arnaque parce que son entreprise est menacée de s'écrouler, met au point une arnaque et un casse pour récupérer de l'argent. C'est-à-dire le pitch de votre film, qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, je vais pleurer dans ma chambre d'hôtel. Non, je sais pas. Carbone, je sais qu'il y a un autre, comme c'est relatif aux escrocs, à la taxe carbone. Ouais. On s'est inspiré. On a pris beaucoup de liberté par rapport à ça. On a juste repris l'idée et transformé beaucoup de choses. Mais il y a un autre film qui est en préparation. Là, mais bon, nous, on sortira avant déjà. Donc déjà, au cinéma, je sais qu'il y a un autre projet.
Voilà, donc, il faut surveiller, quoi. Il faut surveiller pour pas trop se faire passer devant.
Oui, et puis il y a eu deux films sur Yves Saint-Laurent, il y a eu deux La Guerre des Boutons.
Bon, c'est des choses qui arrivent.
Oui, malheureusement, après, c'est des concours de quéquettes, hein, je crois.
Est-ce qu'il y a des sujets là que vous avez vu passer je pense au Mediator, par exemple, ou que ce soit ce scandale, entre guillemets, puisque Emmanuel Berco a réussi à faire le film avant même que le procès ne soit fait. Est-ce qu'il y a des sujets que vous avez vu passer en disant tiens, celui-là j'aurais aimé être dessus?
Non, après moi j'ai un projet avec Michel Néret, quoi, c'est mon le commissaire de Lyon qui est mon ami sur sa vie, quoi.
Et enfin, que vous avez défendu bec et ongles.
Ouais, bah oui, parce que c'est un super pote, et donc là on a un projet là-dessus.
Un biopic en fait.
Oui, enfin c'est surtout sur quand c'est les années quand il avait 40 ans, quand il arrive à Lyon et qu'il a démantelé en fait toutes les grosses équipes de braqueurs, et comment il est arrivé à travailler avec ses indiques, et comment ce système est arrivé par le perdre, quoi. Voilà, donc on est là-dessus. Et là, je suis en train de travailler sur un film sur le grand banditisme, mais sur les années 50. Voilà, je voudrais faire un film d'époque.
Vous enfoncez le clou sur l'ancien policier qui se retrouve cinéaste, acteur, scénariste. Vous enfoncez le clou sur le film noir, le film de genre. Vous n'avez pas envie de passer à un autre genre, justement, de surprendre?
Mais j'ai essayé. Mais
non, western, on raison de gueule.
Pour parler pour un western, c'est l'adaptation d'une bande dessinée de Jean Van Ham, qui s'appelle Western, justement, qui est une histoire formidable.
Qui est formidable.
C'est formidable, mais le problème, c'est que tout le monde hésite, et en plus, les westerns aux États-Unis ne marchent pas, donc ils se disent avec un français,
Pourquoi il marcherait en France, c'est ça?
Ouais, voilà, c'est le problème. Le problème, c'est vrai que le public a. Moi, j'avais un gros film sur la guerre de 14-18, et on a travaillé 3 ans dessus avec. C'est Chris, surtout, c'est l'adaptation, c'est Notre Mère la Guerre.
Ah,
la
c'est
bande
génial
dessinée.
Comme bande dessinée.
Voilà, et enfin, on a fini par. Ça a fini par céder, quoi, parce que les gens ont peur de tous les films sur 14-18 qui sont sortis là depuis 3 ans n'ont pas marché, donc maintenant les gens, c'est normal, le système de production est frileux parce qu'ils se disent bon, on va se monter, quoi, vu que ça
Alors,
coûte cher,
si c'est
25 millions d'euros,
si c'est
quoi.
Pas un western, c'est pas un film
une comédie
avec
musicale
la guerre.
Sur la garde à vue,
non.
Mais oui,
une comédie romantique,
viens t'arrêter pour t'interroger.
Une comédie romantique, par exemple, ça c'est pas en termes de.
J'adorerais, mais j'adorerais. J'étais sur l'adaptation du dernier roman, l'avant-dernier roman de Grégoire Delacour, que j'adore, on ne voyait que le bonheur, qui est un roman sublime. Alors
il était venu nous présenter à la naissance de la bande originale.
Il est génial. C'est un auteur, moi, que j'adore vraiment.
Il est venu la semaine dernière.
Et voilà, pareil, ça ne, je sais pas, peut-être que les gens, on se dit, voilà, on parlait aussi ce matin d'Alain Corneau, où le journaliste disait que Corneau n'avait pas été foncièrement reconnu à la place qu'il aurait mérité. Moi, je connaissais Alain assez bien, quoi. C'est un cinéaste que j'adorais, un monsieur très touchant et très cultivé. Mais il disait qu'il s'est un peu perdu, il a essayé trop de genres, et peut-être qu'il aurait dû rester dans le polar, Corneau aussi. Peut-être.
Et donc, vous redoutez quoi, qu'éventuellement, vous n'ayez pas la carte pour faire de la comédie romantique, parce que vous êtes.
La carte, il n'a pas, avec tout ce qu'il a dit sur le cinéma.
Je parle des producteurs, c'est-à-dire que vous soyez juste catalogué au genre film, police, grand banditisme, et qu'on ne vous fasse pas confiance, éventuellement, sur une comédie romantique.
Mais c'est pas ça, c'est que je pense que le public aussi, je crois qu'ils attendent ça aussi avec moi, quoi.
Moi, je trouve que vous avez une gueule, vous pourriez être dans une comédie romantique.
Ah oui.
Mais j'ai déjà essayé, mais ça n'a pas marché au cinéma, elle s'est plantée.
Donc, c'était quoi?
J'ai fait plus belle que la femme de nôtre. Ouais.
C'est
aussi belle que la femme de nôtre.
Ah,
oui, le titre était.
Ça.
Voilà.
Mais après tout ne dépend pas non plus de d'un rôle.
Je suis trop vieux maintenant pour jouer maintenant. Mais si, maintenant on m'appelle pour les grands-pères et tout ça. Donc,
mais
si, c'est moi en plus. Mais tant mieux, les jeunes grands-pères.
Apparemment, il y a une ouverture du côté d'Alison qui n'arrive pas à le croire.
Moi, j'aime la maturité.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Leïla, vos oreilles vont siffler quand vous avez su qu'Olivier Marchal était notre invité.
Et oui. Et immédiatement, Olivier Marchal, j'ai pensé à beaucoup de choses, notamment.
Oui, mais qu'est-ce qu'on peut dire à la radio?
Voilà. Non, mais tout va bien, Olivier, n'est-ce pas? J'ai pensé aux Lyonnais, avec Gérard Lanvin et Tchéky Cario.
Oh là là.
Allez.
On espère à peu près tous la même chose. Que la vie soit belle et tranquille. Avoir une famille heureuse. Des amis sur qui compter.
Sergio s'est fait crever par des condés.
Serge pourra pas être des vôtres. T'as un message à lui faire passer?
Pourquoi t'es facteur?
Voilà, Les Lyonnais, un film moi que j'adore, vraiment, avec une ambiance incroyable.
Je trouvais ça un peu brutal, moi. Olivier, vous
êtes sans lumière.
La lumière était... Vous préférez les Lyonnaises, hein, c'est ça.
Les bouchons.
Les bouchons, absolument. Et un casting incroyable. Là, j'ai cité Gérard Lanvin, Tchéquie Cario, il y a tout un tas de comédiens, c'est extraordinaire. Mais justement, bosser avec Gérard Lanvin, moi j'ai une curiosité, je trouve ce comédien assez incroyable. D'ailleurs, la scène d'ouverture des Lyonnais, c'est à en tomber amoureuse de Gérard Lanvin.
Il est torse nu, bronzé, ouais, c'est normal.
Oui, et puis il incarne quelque chose.
Quand on a un bestiau pareil, on le filme, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il est beau. L'âge qu'il a, il fait 10 ans de moins. Non, mais Gérard, c'est mon pote. Je le vois lundi soir, là. Il vient. Donc, c'est vrai que c'est une amitié qui vient du fils à Joe, quoi, avec de Philippe Dillard. Oui. Voilà, c'est...
Dans le monde du rugby.
Ouais, et puis c'est Gérard, c'est un type, voilà, c'est une grande gueule aussi. C'est
alors justement c'est...
avec
cette
qui
grande
vous
gueule...
partagez l'amour de la profession. C'est ça. Ah,
mais... Ouais, mais vous savez, il a eu un César du meilleur acteur pour le fils préféré de Nicole Garcia. Ouais. Il était génial et il a donné son César pour que le César soit vendu aux enchères pour une œuvre caritative. Donc il s'en est débarrassé pour que l'argent aille à une association. Faut le signaler parce qu'il en parlera jamais.
C'est pas énorme, il faut pas dire que les choses comme ça. Olivier, si, il s'en est débarrassé. Il a pas jeté.
Il s'en fout.
Il l'a mis en valeur pour que l'argent serve à quelque chose.
C'est bien.
Il lui a donné une utilité.
Ouais, ouais, voilà. Alors qu'il y en a d'autres qui les mettent sur les étagères et on les voit bien quand on rentre dans leur bureau. Hein, ça, on voit que ça d'ailleurs. Mais ils n'ont pas la photo de leurs enfants, mais par contre, les Césars sont là. Donc, mais après, c'est ça. C'est
ça va, Olivier, vous êtes énervé.
Ouais, je suis énervé en ce moment.
Non,
vous l'avez senti, Nagui. Pourtant, je me suis levé, j'étais de bon poing.
Mais tu m'as vu être énervé, c'est ça.
Ouais, c'est la question. En fait, après, puis ça me joue des tours parce que là, j'ouvre ma gueule et c'est repris. Mais j'arrive pas à mentir, quoi. J'ai un vrai problème.
Mais du coup, voilà. Ça crée pas une famille avec tous ceux qui pensent comme vous, comme Lanvin.
Je crois qu'ils s'en foutent, ça les empêche pas de continuer à vivre, et tant mieux. Mais avec Gérard, oui, ça nous rapproche un peu. Ouais, une bonne brochette. Mais non, on tourne des films comme un pâtissier va faire ses gâteaux, comme vous venez faire vos émissions. Gérard, il n'arrive pas avec son chauffeur en gueulant parce que le café est froid.
Et justement, Gérard, quand est-ce que...
Ça n'a rien à voir avec nous, parce que là, l'Égyptien, il arrive avec un melon comme ça. Il met un quart d'heure à enlever son bonnet. Attends, il est en fait.
France Inter, la bande originale, le best-of, avec Nagui.
Colin, Pierre et Manu pour nous offrir une reprise d'un titre d'Alain Bachung. C'est eux qui l'ont choisi, c'est eux qui l'ont décidé, c'est eux qui vont l'interpréter. Radio Elvis, aucun express.
Vers la félicité, aucun taco n'y accostera, aucun concorde n'aura ton envergure, aucun navire n'y va sinon toi, aucun trolley ne me tiendra si haut perché. Aucun vapeur ne me fera fondre. Des escalators aux chariots ailés, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Je longeais ton corps, épousé ses méandres. Je me suis emporté, transporté par-delà les abysses, par-dessus les vergers. Délaissant les grands axes, j'ai pris la contre-allée. Je me suis emporté, transporté. Aucun landau ne me laissera bouche bée. Aucun Valhalla ne vaut le détour. Aucun astronef ne s'y attarde. Aucun navire n'y va, sinon toi. Je longeais ton corps, épousé ses méandres. Je me suis emporté, transporté par-delà les abysses, par-dessus les vergers. Et délaissant les grands axes, j'ai pris la contre-allée. on y va, sinon toi, sinon toi. J'ai ton corps reposé sur mes hanches, je me suis emporté, transporté par-delà les abysses, par-dessus les vergers, et délaissant les grands axes, j'ai pris la contre-allée. Je me suis emporté, transporté. Je me suis emporté.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Voici l'humeur d'Alison Wheeler, que l'on aime.
Yes. Alison. Eh ben non, Nagui, au jour d'aujourd'hui, c'est pas Alison Wheeler, moi c'est Sydney Love, d'accord? Et si je suis là aujourd'hui, je vais pas vous mentir, c'est parce que les jeunes, ils sachent pas pour qui voter. C'est vrai, c'est une jeunesse désenchantée politiquement. Et comme je suis une personne avec des idées, t'as eu? Bah moi, Sydney Love, j'ai décidé de me présenter aux élections.
Non.
Ouais, ouais.
Ouais, ouais.
Alors. Oh, oh.
Génial.
Skyrock.
Non, oh, oh. Je crois pas.
Mathieu Gallet. Ah, oui. Aujourd'hui faut parler vrai aux gens, descendre un peu de son piédestal. Tous ces hommes politiques énervants, ils sont tout le temps sur leur grand cheval.
Yes.
Y'a ceux qui croient qu'il n'y a pas de solution. Ça c'était avant mes propositions. Je suis le lave-linge de la politique, tu verras mon programme est synthétique. On vote pour Sydney Love, des idées qu'elles innovent. On vote pour Sydney Love, tout le monde sera plus love. En écologie, soyons dans l'action. Je veux que les jeunes y soient mis à contribution. Mettre des éoliennes sur leurs casquettes Vuitton. C'est pas sur leur jogging qu'il faut mettre la pression. Et stop avec la biodiversité. Oui, c'est vrai, des espèces sont menacées. Mais les espèces, rien à carrer. Moi, Sydney, je suis pour le paiement en CB. Je mets Marisol KO. J'ai ma mesure pour la santé. Je veux punir tous les hôpitaux qui se moquent de la charité. Vote pour Sydney Love, des idées qu'elles innovent. Ou vote pour Sydney Love, tout le monde sera plus love. Pour lutter contre la taxe tampon, comme MMA je mets un malus. Pour compenser de les garçons, moi j'instaure une taxe prépuce. On a un déficit bling bling, il dépasse autant que mon string string. Je ferai baisser les dépenses, Sydney Love va sauver la France. Au sujet de la fiscalité, ce qu'il faut c'est la supprimer. D'abord parce que c'est abusé, et surtout je sais pas ce que c'est. Je suis contre les clichés, sauf sur Instagram bébé. Je veux que les blancs puissent porter des locks. Je veux que tout le monde puisse porter des crocs. Moi, je suis métisse d'adoption. Le zouk est ma vraie passion. Contre le racisme, je donne l'espoir. Je veux que les blancs puissent voter noir. La parité compte vraiment pour moi. Je sais d'où je viens et où je vais. Du vagin de ma mère à chef de l'État. Je suis droite où je suis fer. Je suis Sydney, vote pour moi. Vote pour Sydney Love. Des idées qu'elles innovent. Ouh. Vote pour Sydney Love. Ton monde sera plus love. Mes rimes sont tellement riches qu'elles ont des comptes au Panama. Skyrock.
Bravo.
Bravo.
France Inter, le meilleur moment de la bande originale avec Nagui.
Mes rives sont tellement riches, elles ont un compte au panel. Mais qu'est-ce que j'aime
ça. On est sur du manque de respect de soi. Hein.
Ah oui, et la beauté de la langue française aussi. Alison Wheeler. Cette bande originale sur Inter.
Au moins, il y a des propositions. Voilà.
On a envie de voter. Voilà, les éoliennes.
Et Mathieu est cité.
Ouais.
Mathieu Galgar.
T'arrêtes d'être faillot.
Oui. J'ai vu l'autre jour dans les couloirs de France Inter.
Beau gosse, hein.
Ouais. On en parle beaucoup, hein, en tout cas.
Très propre.
Ah ouais.
Il est d'une beauté.
Mylène de Mongeau est notre invitée. Nous allons évoquer en musique quelques années de votre carrière, vos débuts notamment dans le mannequinat. On est dans les années 50 et vous écoutiez. J'adore ça.
C'est
joyeux. Liberté de la vie. Mr. Sandman, c'est léger, oui, on a envie de se balader au soleil dans la rue. Et c'est un peu comme ça
avec
que c'est.
Avec Mathieu Gallet.
C'est avec une jolie fille en robe, fleurie.
À Londres à ce moment-là.
Et c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Vous avez été repéré dans la rue.
Ouais, j'ai été repéré dans la rue avec ma maman. Et le monsieur a dit j'aimerais bien que vous posiez des photos. Maman a dit quelle horreur, monsieur, allez-vous-en. Et je suis rentrée à la maison, il m'a laissé sa carte. Et j'ai dit à maman, tu m'as jamais donné un centime pour que j'ai un tout petit peu d'argent de poche, que je puisse m'acheter un pull, que j'arrête de porter les robes, qu'on rallonge, qui sont tes robes, j'en ai marre. Laisse-moi gagner un petit peu de sous. Et ma mère, en bonne bourgeoise, hein, puisque je suis bourgeoise, et ben elle a fini par dire oui. Donc j'ai commencé à faire une photo, puis deux photos, puis 10 photos. Et puis comme j'avais un très long cou à l'époque, n'est-ce pas, très très long, je faisais beaucoup de photos de chapeaux, de beauté, tout ça. J'ai gagné plein de sous. J'ai enfin pu m'acheter des pulls. Et donc le piano, qui était ma passion et qui était mes 6 heures par jour devant, ouais, toute seule dans une chambre, et ben le piano, il est parti aux oubliettes, sauf mon amour de la musique qui n'a jamais bougé, évidemment.
Vous avez travaillé avec un immense pianiste, Yves Nat.
J'ai travaillé, oui, avec Yves Nat et j'ai travaillé avec Marguerite Long.
Voilà, deux immenses pianistes.
Il disait que j'étais très douée si seulement j'avais eu la constance de faire mes 6 heures par jour. Je me suis fait attraper par la société de consommation.
Dévoré par le planning et puis par les plans de tournage, parce que le cinéma est arrivé très tôt également, peu de temps après ce scout qui vous a chassé pour devenir mannequin. Vous avez eu un rôle dans Les Enfants de l'Amour.
Pas mannequin silhouette, hein, j'ai toujours été trop...
Non mais photo.
Mannequin beauté, voilà. Ça s'appelle.
C'est mieux.
C'est
quoi la différence?
J'ai jamais eu la ligne.
C'est que t'es pas sur un podium en train de faire les 400 pas sur le catwalk, mais tu es en photo pour uniquement le visage, le chapeau ou...
Les bras, les machins, voilà, les trucs, mais pas... Je suis trop dodu. Alors, osons le dire. Même quand j'étais jeune, j'avais la taille comme ça, mais j'avais les hanches comme ça.
C'est ça qu'on
Donc,
aime.
Ça n'a jamais été la beauté d'un mannequin, ça. C'est ça.
On est à la radio,
Oui, c'est vrai. La fête est des...
Mais c'est bien. Donc, elle n'était pas comme ça, mais elle était plutôt comme ça. Mais comme elle était comme ça,
ça
passe.
Elle était
à l'époque, ce n'était pas
généreuse.
Les femmes quiches, c'était les femmes fleurs. Voilà.
Je trouve bien de laisser l'imaginaire. C'est la force aussi de la radio, c'est de laisser l'imaginaire, ou comme ci ou comme ça. Vous vous retrouvez au cinéma dans Les Enfants de l'Amour. Comment, quelle passerelle avez-vous emprunté du mannequinat au cinéma?
Eh bien, j'ai fini par aller au cours Simon, parce que toutes mes copines, mannequins, de beauté ou pas de beauté, mais toutes mes copines allaient au cours Simon.
Mannequin laideur.
On m'a traîné au cours Simon. Et là, j'étais dans un coin. René Simon m'a dit, toi, il faut que tu travailles Célimène, parce que c'est ton truc, t'es une coquette, etc. J'ai dit, oui, monsieur, j'étais terrorisée. Et un jour, le gentil Léonide Mogui est venu au cours, et il a sélectionné Etchika Chouro, qui est devenue princesse depuis. Il a Nadine Dallier, qui est devenue la baronne de Rothschild. Il y avait, et puis moi, pour faire une jeune fille mère, parce qu'à l'époque, fille mère, la honte,
scandale,
vous vous rendez compte, attraper un bébé, parce qu'à l'époque, on disait attraper un bébé, j'ai attrapé un bébé.
Comment on attrape une maladie,
pauvre fille, sa mère refuse qu'elle se fasse avorter, parce que scandale épouvantable. Et mon premier jour de tournage, je vous le raconte parce que c'est trop beau. Mon premier jour de tournage, je suis arrivée au studio, on m'a maquillée, on m'a mis un faux ventre et on m'a mise sur la table de gynécologie que toutes les femmes connaissent, n'est-ce pas ? Les jambes largement écartées, pour moi, jeune vierge, hein, je vous signale, à l'époque.
Et on savait pas, c'était pas générique ça, on savait pas.
Et Jean-Claude Pascal, le très beau Jean-Claude Pascal, qui avait des cils comme ça et qui n'aimait pas beaucoup les dames, est arrivé, il m'a regardé d'un air écœuré. Déjà, ça a été affreux. Et j'ai dit à Léonide, mais comment je fais pour accoucher là? Parce qu'elle accouche. Comment je fais pour accoucher? Ah, il me dit, mais écoute, ça fait très mal. Et tu hurles. Ok. Je dis, bon, ben d'accord, ça fait mal. Et je hurle, j'ai hurlé. C'est mon premier jour de tournage, c'était atroce.
En 1958, Mylène de Mongeau, vous écoutiez.
J'aimerais t'en voir Syracuse. L'île de Pâques et Kérouan.
justement, vous avez voyagé, beaucoup voyagé. Vous avez tourné à Londres, vous avez tourné aussi à Saint-Tropez, l'adaptation de Bonjour Tristesse.
Il y a d'autres destinations, parce que là, vous avez beaucoup voyagé, Saint-Tropez et Londres.
Ben, en tout cas, pour les tournages là de Bonjour Tristesse, oui, soit direction.
J'ai été beaucoup en Angleterre et beaucoup en Italie. Je suis restée pas mal en Italie, c'est vrai.
Otto Preminger, c'est un nom évidemment.
Prestigieux.
Magique et culte, ouais. Vous en gardez quel souvenir ?
Excellent. J'ai jamais eu peur de lui, parce qu'à l'époque, j'étais une jeune actrice pleine de culot, parce que tout me réussissait. Donc, quand je le voyais devenir violet, apoplectique et prêt à éclater de rage, je lui dirais, oh, Otto, vous devriez pas, hein, parce qu'à votre âge, vous allez avoir une crise cardiaque, c'est pas bon pour vous, ça. Alors, il restait quoi ? Et je le désavançais.
Personne ne nous élu, pareil, comme ah, ça.
Non, c'était
très colérique.
Hein, elle tombait par terre, tellement elle avait peur de lui. Il était un vrai salaud avec elle. Mais avec moi, il a été très sympa. Non, mais vous voyez, on écoutait Salvador. Salvador, c'est à travers toutes ces années, c'est mon meilleur pote. C'est quelqu'un, je l'ai suivi depuis cette époque-là jusqu'à ce qu'il s'en aille. Un type, je trouve un musicien extraordinaire, qui était tellement malheureux d'être célèbre à cause de Mini Petite Souris.
Ouais.
Alors qu'il aimait Syracuse, il aimait Count Basie, il aimait toutes ces chansons-là. Mais son fric, ça venait de l'autre côté. Et il râlait. Et des fois, je lui disais, bon, quand tu peux me faire les Dalton, parce que c'est quand même rigolo, les Dalton.
Ouais, puis il y a eu Zorro.
Zorro est arrivé.
Mais il est revenu avec Un Jardin d'Hiver. Enfin, ouais. Il est revenu avec des chansons
mais
qui
là, il
lui allaient bien
content.
Aussi.
Il ouais. était content. Donc sur la fin de sa vie, il a enfin eu la reconnaissance qu'il souhaitait. C'est beau, c'est formidable.
1964, vous écoutez.
Podem me chamar e me pedir e me rogar e podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar. Eu não vou ir, melhor nem pedir. Eu não vou ir, não quero ir.
João Gilberto,
la musique. J'ai une grande histoire d'amour avec lui. Je suis partie faire un film qui s'appelait Copacabana Palace et dont il était le musicien. Le musicien du film.
Il faisait la bande originale.
Et, ouais. La bande originale et je suis tombée comme une mouche. J'aimais tellement
c'est
la musique.
Vrai.
Il y avait Jean Gilberto, il y avait Baden Powell, il y avait Vinicius de Moraes, il y avait lui. Il avait 28 ans, j'avais 25, je sais pas. Il faisait beau comme un dieu. Là, je dois dire, je suis tombée, je voulais plus rentrer en France. J'étais partie pour faire un film qui durait un mois et demi.
Tu vois qu'elle
a beaucoup voyagé. Je suis restée 3 mois.
Mais c'est incroyable parce que c'est les plus grands chanteurs brésiliens, les plus grands artistes brésiliens.
On faisait de la musique toute la journée. Alors, c'est ce qui me déprime avec les musiciens d'aujourd'hui, c'est que, à part Thomas Dutronc, j'adore, mais ils ne jouent plus. Ils ont leur boîtier comme ça avec tous leurs trucs et leurs boîtes et leurs machins. Et quand je les vois composer, ils sont là avec leur casque, ils font da 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 da. Et puis on va rajouter da da tout ça. Les miens.
Non mais il reste des musiciens.
Toute la journée, on faisait de la musique.
Mais vous chantiez, vous avez l'air de chanter un peu.
Bah, évidemment, chanter comme une casserole, mais chanter quand même. Ce qui est important, c'est le plaisir.
Mais oui.
Dans ces années, milieu des années 60, vous étiez présentée comme la concurrente, la rivale de Brigitte Bardot. L'avez-vous jamais été
Ben non, parce qu'elle avait un succès qui était très différent du mien. Et moi, je rigolais à une époque. Je disais ça, maintenant, ça, c'est ridicule. Mais moi, elle était la fille qu'on convoite. Et moi, j'étais la fille qu'on épouse.
énorme succès avec Fantomas. Jean-Marais vous adorait. Jean-Marais, il faut quand même resituer pour ceux qui n'ont pas connu ces années, était une
star.
Une immense star.
Beau.
Et d'être adoubé comme ça par Jean-Marais, c'était.
J'adore Jean, mais moi, mon grand amour professionnel, c'est De Funès. De Funès. Je l'ai regardé en extase, il m'a tout appris. J'ai passé des heures sur
le rythme,
le travail, le fait que tu reçois une page de texte où il est écrit bonjour, vous allez bien? Ah, il y a un pendu, etc. Bon, tu lis ça et puis on voit De Funès arriver sur un plateau et on voit ce qu'il en fait. Mais c'est incroyable l'invention, la richesse imaginative. Et alors avec lui, et mon copain Jacques Dinam, on préparait nos scènes, on allait dans un coin. On préparait, et puis on allait retrouver le metteur en scène André Nebel, et on lui disait, bah voilà, t'as qu'à mettre la caméra là, on tourne. T'avais pas besoin de lui du tout. De Funès, il avait tout fait, et nous, on était fous de joie. J'ai adoré ce type. C'est un acteur.
C'est un grand monsieur humainement hors caméra dans
il
les rapports.
Il était extraordinaire parce que on a souvent parlé ensemble. Il m'a fait des coupes pendables. Je lui veux, et il est plus là, mais je lui en veux toujours un jour. Marcel Aimé était le client de mon agent. Donc Marcel Aimé dit, j'adore De Funès, je veux écrire pour lui. Et j'arrive au studio comme une dingue en disant, je sais pas si tu te rends compte Louis, Marcel Aimé veut écrire pour toi. Mais c'est fabuleux. Tu vas être le Pagnol avec Rému et toi, Marcel Aimé avec toi. Et ce con, il me dit, non, je ne le rencontrerai jamais, je ne veux pas le voir. Je suis trop nulle, je suis trop inculte, je suis trop ceci. Et je n'ai jamais réussi à organiser cette rencontre. Il était pétrifié de trouilles devant Marcel. Mais c'est pas possible.
Il y avait quelque chose d'autre. Hein,
non, 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 c'est bizarre. Un complexe énorme.
De ne pas être reconnu par...
Il n'a pas voulu, il a eu la trouille. Pourtant, le passe-muraille, il aurait été extraordinaire, ah, le passe-muraille.
Ouais, c'est Bourville qui l'a fait.
C'est Bourville.
Oui, mais bon, De Funès, il avait... Oui, oui. C'était un mime. Moi, il m'a refusé de... Quand j'ai produit Signé Furax, quand on a tourné le film, j'ai proposé, évidemment, le rôle principal tout de suite. Et il m'a répondu, très gentillette, en me disant, Mylène, je ne peux pas faire un film de mots. Moi, je suis un mime. C'est pas un film pour moi, ton truc. Désolé. Mais il avait raison.
Fantomas étant donc une espèce de super héros voilà. Avec Louis de Funès. Mais c'était Jean Marais qui incarnait Fantomas.
Et les deux.
Et voilà.
Le journaliste.
Avec la voix de Raymond Pellegrin qui faisait l'ignoble.
Fantomas. Fantomas, un super héros que jamais personne, incarné par Jean Marais, que jamais personne n'a attrapé.
Non, parce qu'on devait faire un. on devait faire
un. À part Jean Cocteau.
Un Fantomas à Moscou, oui. Et d'autres.
Bien vu, Nagui.
Mais en tout cas, on devait faire Fantomas à Moscou et puis c'est
pas
possible.
C'est pas possible.
Dans les années, après de longues années d'absence, on vous retrouve en 2004. Mino Sinelu, alors expliquez-nous cette musique, comment vous la connaissez, comment vous la...
Alors, Mino Sinelu, il est arrivé chez moi la première fois, j'étais encore à Porquerolles et il est venu déjeuner à la maison.
Dans le Var, parce que je rappelle que vous êtes niçoise,
oui.
Et que vous vivez au soleil, vous aimez le soleil.
J'ai vécu 22 ans à Porquerolles, je suis dégoûtée du soleil, du tourisme,
pardon.
Et je vis en Mayenne. J'ai changé de vie complètement,
c'est réussi.
Dans les arbres et dans la verdure, mais j'ai eu 22 ans la joie de connaître un midi qui change beaucoup. Bon, et donc Bernard Lavillier est venu déjeuner chez moi avec sa troupe. Mino faisait partie, il était le guitariste. Donc il a joué l'après-midi, j'adore la guitare, j'étais très sympa avec ça. Et 3 mois plus tard, je l'ai retrouvé dans le film que je faisais avec Jacques Fieschi qui s'appelle La Californie. Et à la cantine, au déjeuner, je vois un grand gaillard comme ça. Beau mec, faut dire qu'il est vraiment beau mec. Il arrive, je me dis, tiens, ah, cette tête-là, je l'ai vue quelque part, lui. Et donc, je suis allée le voir, je me dis, mais je vous ai pas vu quelque part, vous. Hein. Il me semble, vous me sonnez familier. Il me dit, bah, j'étais chez vous, d'accord. Donc, on s'est vu, il a fait la musique du film et on est devenus hyper potes. Voilà.
Très bien. Année 2004-2006, c'est votre retour au cinéma devant la caméra d'Olivier Marchal, 36 Quai des Orfèvres. Olivier, d'ailleurs, que nous recevrons la semaine prochaine dans cette émission. C'était un retour, j'ai envie de dire, avec le succès populaire. Vous renouiez.
Écoutez,
avec le
tout le monde m'a trouvé bien. On m'a même inscrite à un César que je n'ai pas eu. Mais moi, je ne me trouvais pas bien. Je trouvais que le rôle n'était pas bien, que j'avais rien à faire dedans. J'étais presque vexée qu'on m'offre quelque chose d'aussi. Mais je me suis dit, pour mon retour, je ne vais pas faire la fine gueule. Donc je reviens et tant mieux si les gens m'apprécient. Voilà. Donc, je suis très contente, mais bon, je n'ai pas encore donné ma pleine mesure. Voilà, vous vous rendez compte, à l'âge que j'ai, je me dis, il y a encore des choses à faire. Je veux, avant de me retirer définitivement, je veux au moins une fois casser la baraque, pas pour les gens, pour moi. Faire vraiment quelque chose où je me dis, ah, là, oui, ma vieille, c'est bien.
Eh ben pourquoi pas, avec Love Letters. Voilà, Comédie des Champs-Élysées, Mylène de Mongeau et Jean Pia sur cette pièce de théâtre avec ses correspondances amoureuses. Et ben justement, puisque notre invité Dominique Marny, bonjour.
Bonjour.
Merci de venir. Bonjour. Vous êtes auteur et vous avez publié Je n'ai rien à te dire sinon que je t'aime, correspondance amoureuse. De la correspondance amoureuse, vous avez suivi l'évolution des correspondances amoureuses dans l'histoire. On n'écrit pas de la même manière aujourd'hui ce qu'on expliquait avec notamment la différence de support que ce que l'on pouvait faire dans les années 60 ou
On dit la même chose.
Même 80, on dit la même chose,
mais pas de la même manière. Et on l'a dit avec plus ou moins de talent. Et il ne faut pas croire que les gens les plus célèbres, les écrivains les plus célèbres, écrivent forcément les lettres les plus extraordinaires. Ils ont pu être ridicules en écrivant des lettres d'amour ou démunis. Donc c'est, ça n'est pas parce qu'on
oui,
sait
mais
écrire.
Être ridicule dans une lettre d'amour, c'est peut-être ça aussi.
C'est ce que disait Fernando Pessoa. Il disait toute lettre d'amour est ridicule, mais on est encore plus ridicule si on n'écrit pas une lettre d'amour. Donc il faut se lancer de toute manière, oui. Non, il y a aussi des manières différentes d'arranger aussi une lettre d'amour. Si on ne sait pas tellement écrire, là je ne veux pas dire que Saint-Exupéry ne savait pas écrire, s'il savait écrire, mais quand il a aimé une femme, la dernière femme qu'il a aimée quand il était en Algérie un an avant sa mort, il était avec son escadrille, et il a aimé une inconnue, on l'appelle une inconnue car on n'a jamais connu son identité, il a aimé une inconnue dans un train, il est tombé fou d'elle.
Pour un pilote de ligne.
Voilà, exactement. C'est pas terrible. Hein. Et elle ne voulait pas de lui. Et il se servait du Petit Prince, c'est-à-dire il faisait des dessins à l'aquarelle sur chaque lettre qu'il lui envoyait du Petit Prince, et c'était son intermédiaire pour lui dire des choses et des reproches, puisqu'elle ne voulait pas de lui.
C'est formidable.
Et le Petit Prince était sorti un an avant aux États-Unis, puisqu'il est d'abord sorti aux États-Unis. Donc voilà une manière. Il y a aussi une artiste qui a fait des boîtes avec des rébus amoureux, c'est-à-dire que vous offrez une boîte, mais...
Il fait
ce
deviner,
que vous voulez dire, voilà, deviner avec un rébus.
Mais il y a un moment quand c'est trop compliqué, est-ce que ça brise
oui,
pas
mais enfin,
le,
il y en a certains qui sont très compliqués, parce que moi, il y en a certains que j'ai pas pu résoudre. Chiffres, mais c'est quand même une très belle idée, en fait, voilà.
Et dans Love Letters, c'est la correspondance d'une vie entière, puisque ça commence à 7-8 ans et ça va jusqu'à 60...
Jusqu'au bout.
Ça va jusqu'au bout. Est-ce que c'est fréquent, des correspondances amoureuses aussi grandes, aussi longues, ou ça relève de la fiction?
Alors, il y a des correspondances amoureuses qui sont très longues, mais qui ne commencent pas forcément à l'enfance. Mais on peut parler d'une correspondance qu'on a trouvée récemment et qui est longue, c'est celle de François Mitterrand à Anne Pinjot, puisqu'elle dure plus de 20 ans.
La définition d'une lettre d'amour, c'est de déclarer sa flamme ou c'est simplement une correspondance entre deux personnes qui entretiennent une relation? À partir de quel moment une lettre peut être considérée lettre d'amour ou simplement une correspondance?
À partir du moment où vraiment il y a des déclarations enflammées et il y a aussi des correspondances très érotiques, donc ça aussi ça compte, enfin ça compte et longtemps.
George Sand ou
pas tellement George Sand, et puis en plus George Sand s'est arrangé pour qu'on déchire les lettres.
Vous avez un exemple dégueulasse à citer?
Dégueulasse? Non, je dirais pas que c'est dégueulasse, mais j'ai deux exemples de correspondances, trois de correspondances érotiques, c'est-à-dire le tsar Alexandre II et la fameuse Katia. Vous savez, il y a eu un film où Romy Schneider jouait le rôle de Katia. Il l'a rencontrée, il avait 48 ans, il était tsar. Elle était jeune fille, genre pensionnat, vous voyez, de jeune fille de la cour de Russie. Il tombe amoureux, ça a duré toute sa vie, jusqu'à sa mort à lui. Et il lui écrivait tout le temps, et justement les ébats amoureux, ils appelaient ça leur Bingerl. Enfin, je ne sais pas comment le prononcer, B-I-N-G-E-R-L-E. Et quand ils disaient on va faire Bilgern, ça voulait dire ça, et ça a duré très longtemps. Il y a eu aussi Apollinaire et Lou, bien évidemment, dans les correspondances amoureuses. Il l'a connu juste avant de partir pour la guerre de 14, il est dans les tranchées, et il lui écrit des choses absolument extraordinaires, et elle lui répond des choses encore plus torrides. Elle avait absolument pas froid aux yeux. Voilà une femme très moderne en 1914.
Alors, pour de modernité, est-ce que justement les mails, les SMS et autres modes de communication aujourd'hui qui sont formidables pour ceux qui le font et pour l'utilité qu'ils ont ne sont pas la mort des lettres amoureuses, ou est-ce qu'au contraire c'est trop chic, c'est la panacée de tout aujourd'hui d'écrire encore une lettre amoureuse?
Je crois qu'on peut écrire une lettre amoureuse par mail, ça c'est très intéressant. Alors la chose qui différencie...
Je parlais du parfum, de l'écriture, du graphisme, de petits trucs qu'on peut rajouter.
Oui, mais alors il y a quelque chose, oui, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas tout ça, mais on peut peut-être encore plus imaginer et encore peut-être plus fantasmer quand on n'a aucune trace de rien. Sauf que je pense qu'il y a quelque chose de différent avec le mail, c'est l'instantanéité. C'est-à-dire que vous savez tout de suite ce que pense l'autre, alors que quelques siècles auparavant, une lettre d'amour pouvait mettre des semaines, des mois.
Oui, mais l'attente, ça peut être excitant.
Et l'attente est excitante. Peut-être que c'est ça que le mail détruit. C'est peut-être l'attente. C'est ça que je dirais.
Mais je me semble aussi que si on écrit, par exemple, un truc érotique, alors je dis n'importe quoi, je rêve de ta chatte largement ouverte.
C'est un Puccini. Puccini a écrit après ça. Puccini.
Mais si on l'avait sur un mail, c'est horrible sur un mail.
Non, non, non. Non, moi je pense pas.
Non,
et en plus, vous pouvez rédiger un mail comme une lettre.
C'est à l'oral que c'est horrible, en fait.
Et puis ça dépend qui l'envoie.
À l'oral, c'est aussi possible.
Ça dépend qui l'envoie, surtout qui.
Bon, on est censuré, j'ai compris.
Mais pas du tout.
Non, on n'est pas du tout censuré, on est en direct. Donc vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je voulais juste simplement souhaiter un bon appétit.
Au
petit qui rentre.
Appétit, je vois. Quel rapport entre l'appétit, excuse-moi.
Moi j'envoyais un immédiat, mais c'était pas le même. Dominique Marny, merci d'être venu apporter votre connaissance du sujet. C'est passionnant. On voit bien, Daniel Morin, que malgré les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, la correspondance amoureuse reste quand même ce qu'il y a de plus beau, de plus.
Stop ! Non, pitié ! Pitié, pardon. Non, désolé Alison, mais arrêtez, monsieur Guy, arrêtez chaque jour que Dieu fait d'élever le débat de cette façon. Même si aujourd'hui, votre élévation est plutôt médiocre. Fini la belle correspondance, terminée la belle lettre, basta les plaints et les déliés, soyons modernes, nom de Dieu. En plus, excusez-moi, mais qu'y a-t-il de plus beau qu'un texto bien écrit pour déclarer son amour ? Kiff, cœur, cochon, aubergine. Ça, c'est beau. Je vais demander son avis à mon ami expert musical Jean-Philippe Manœuvre. Je sais qu'il sera d'accord avec moi. Jean-Philippe, vous pensez que c'est encore important la correspondance par lettre pour déclarer son
amour ? Mais grave de chez grave, Dany ! La lettre d'amour, il n'y a rien de plus beau !
Non, mais en fait, ça ne m'arrange pas comme réponse.
Ok, bon, pas de problème, repose la question, mec.
Jean-Philippe, vous pensez que c'est encore important la correspondance par lettre pour déclarer son amour ?
Mais non, surtout pas, Dany ! La lettre d'amour, c'est ringard, c'est total loose !
Ah, Nagui n'est pas de cet avis, il trouve ça magnifique, les lettres d'amour.
Tu parles, il sait même pas écrire, cet escroc.
C'est quoi le meilleur moyen pour déclarer sa flamme, alors ?
Mais aujourd'hui, on n'a plus le temps de se mettre à une table pour écrire. Le truc, c'est le bon vieux coup de téléphone, Dany !
Ah, ok, et on dit quoi ?
On est direct, Dany ! Fucking direct ! Direct, mais on y met les formes quand même, on dit un truc du style « Allô meuf, c'est Jean-Philippe, je te trouve super bonne, tu veux bien être ma femme pour 20 minutes ?»
Waouh !
Et puis il n'y a pas
puissant.
Le problème des fautes d'orthographe, hein ?
Hyper puissant. Ça marche ?
Non, mais elle est au courant et elle peut changer d'avis.
Merci Jean-Philippe. Alors, vous voyez, monsieur Guy, il faut apprendre à vivre avec son temps. Coup de fil, texto, voilà, ça c'est moderne, c'est donner de la noblesse à son temps. Une fois de plus, avec vos raisonnements de poète alcoolique maudit, vous avez dit
n'importe quoi !
Merci d'être bon avec Apple.
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
Voici Calypso Rose, Calypso Queen.
De la bande originale, ça continue jusqu'à 12h30 sur France Inter avec Riyad Satouf et en live Ail EJ.
Le meilleur de la bande originale, ça continue avec Leila Kadour-Boudadi, Daniel Morin, Tom Villa, Alison Wheeler, notre invité Riad Satouf, et vous allez retrouver en live L.E.J. Le meilleur de la bande originale, la suite, c'est parti. Riad Satouf qui signe l'Arabe du futur 3, une jeunesse au Moyen-Orient, dessinée, elle aurait pu être écrite d'ailleurs, tellement elle est épaisse, tellement c'est dense, tellement c'est écrit, ça peut faire un roman. Oui, vous êtes un dessinateur de bande dessinée, mais la présence du texte est particulièrement dense.
Bah, c'est vrai que j'aime bien les bandes dessinées qu'on lit pas rapidement, quoi. Enfin, j'aime bien qu'il y ait beaucoup de choses à lire.
Ouais, vous aimez même que dans une bulle, il y ait à la fois la didascalie pour savoir où on est, qu'il y ait le dialogue et qu'il y ait le petit commentaire en plus, en façon un peu coccinelle de Gottlieb, quoi.
Bah, la bande dessinée permet ça, justement. Et avec le dessin qui apporte une ambiance. Enfin, c'est marrant parce que pendant des années, j'ai raconté à mes copains toutes ces histoires syriennes. Et bon, ils m'écoutaient, ils s'en fichaient un petit peu. Et une fois qu'ils l'ont lu avec les dessins, ils ont pris conscience de ce que c'était. Mais sans les dessins et juste en le racontant, ils ne se rendent pas compte. Donc la bande dessinée permet de raconter des trucs plus forts.
Vous saviez qu'il y aurait 5 tomes dès le premier ?
Non. J'avais dit 3 à l'éditeur pour me ménager une...
Une porte de sortie.
Non. Mais c'est en écrivant le troisième, justement, que je me suis dit qu'il y en aurait 5. Voilà, il y a une seconde partie à l'histoire qui aura besoin d'un petit peu de développement.
Ce qui veut donc dire, pardon, que vous vous arrêterez à quel âge, en fait ?
Ben, je ne sais pas encore trop, mais en même temps, je n'ai pas trop envie de le dire.
Après, il y a une question d'amplitude annuelle. Là, vous êtes 85 à 96 sur 2 ans.
Oui, mais je vais accélérer un peu dans la suite. Vous comprendrez avec le tome 4 ce qui se passe, quelque chose d'important dans la suite de l'histoire. Et je ne pourrais pas faire la même chose que... Enfin, je serais obligé d'aller plus vite.
Le cliffhanger.
There's a cliffhanger at the end.
Et ce qui est dingue, en fait, Riad, c'est que c'est une autobiographie. En bande dessinée, c'est un genre qui n'est pas très, très souvent exploité. Et c'est quand même un grand succès. Je pense que ça fait venir beaucoup, beaucoup de gens à la bande dessinée. Parce que la bande dessinée reste un art, pour moi, majeur, mais un peu mis de côté par beaucoup de personnes qui n'ont pas l'habitude. Non, il y a beaucoup de gens qui n'ont vraiment jamais lu de bande dessinée vraiment de leur vie. Ou alors ça remonte à l'enfance, qui continuent pas à le faire à l'âge adulte. Et là, à part le Mickey, journal de Mickey pour Daniel Morin.
C'est ça.
En fait, ce que vous réussissez avec l'Arabe du futur, et je trouve que c'est vraiment notable et c'est important pour la bande dessinée en général, c'est que vous faites venir des gens à la BD.
C'est vrai que j'ai beaucoup de lecteurs qui viennent s'excuser en fait de me dire qu'ils connaissent pas la BD.
Ouais.
Et j'ai des mamies j'en ai une il n'y a pas longtemps qui est venue me voir et m'a dit votre BD c'est la première que je lis depuis Bécassine. Et en fait mais ça me fait hyper
très belle imitation de mamie quand même. C'est pas facile.
C'est ce qui me fait le plus plaisir quand on me dit ça, parce que c'est vrai que la bande dessinée peut être quelque chose de on sait pas par où rentrer
c'est
dedans.
Si je peux me permettre, c'est écrit un peu petit pour les mamies quand même. Il y a des...
Ah bon ?
Ah non. Bah avec des bonnes lunettes. Quand même, les opticiens.
Ah, vous y êtes, d'accord, okay, d'accord.
Mais du coup, vous romancez un petit peu des fois ou pas ?
Non, je suis obligé de. Je mélange des. C'est-à-dire, ma vie n'était pas. C'était pas une histoire
si
comme ça. C'est-à-dire, je la condense, je raconte pas tout aussi. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je passe vite.
Alors, comment faire le tri justement entre ce qui peut vous paraître, vous, anecdotique et ce qui pourrait être touchant pour un lecteur ?
Le truc que je me suis dit, c'est que je centre le livre sur mon père. Et sur le rapport entre l'enfant et le père, et l'évolution du père, en fait, par rapport à ses rêves et à la façon dont il voyait son propre futur et ensuite celui de ses enfants.
C'est un père extraordinaire, par exemple, sur l'Arabie Saoudite, sa vision de l'Arabie Saoudite.
Sur les dollars.
Et puis se dire que, oui, finalement, en gros, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté là-bas, la femme est quand même dans une situation compliquée, mais... admettons qu'en France, on donne 3 000 $ par mois à chaque Français, il va s'asseoir du jour au lendemain sur ces belles notions de liberté. Il n'y aura plus de concept, en fait, d'idéologie.
Disons que mon père, il n'était pas du tout pour la démocratie.
Ouais.
Il rêvait d'être président et il était fasciné par les leaders très forts. Je pense qu'il aurait adoré Poutine aujourd'hui, par exemple. Et quand il me racontait l'histoire de l'Arabie Saoudite, il me parlait de Al Saoud, donc il y a un type, je crois que c'est au 18e ou 19e siècle, qui a fondé le pays.
Qui a donné son nom, ouais, c'est ça.
Et il me disait, tu te rends compte, c'est comme si moi je dirigeais un pays, ça s'appelait l'Arabie Satoufite. Et en fait, ça le faisait authentiquement rêver.
C'était pour ça que vous avez une petite tendresse pour Nagui.
Pourquoi
le despote ?
Salaud.
Aussi.
Je ne comprenais pas. Très bien. Eh bien, écoutez, vous allez souffrir. Daniel Morin, merci.
La bande originale, le best-of sur France Inter.
Non, et pourtant.
T'es de bonne humeur ?
Je suis, mais d'excellente humeur. Je suis heureux, mais vraiment heureux. Pourquoi ? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un grand homme. Un grand homme du showbiz. Un grand bonhomme. Et ce bonhomme, il se trouve que nous l'apprécions tous les deux, Nagui. Pas pour les mêmes raisons, mais énormément.
Quand ça tâche,
mais...
C'est son anniversaire ?
L'anniversaire de Christophe Maé.
Bah, attends, j'envoie un texto.
Bah, je comprends.
Christophe Martichon. Ouais.
Christophe, joyeux 41 ans, camarade artiste, camarade poète, camarade troubadour qui chante la vie, l'amour.
C'est samedi prochain, Taratata, avec Christophe Maé et Patrice.
C'est génial, et c'est génial. Leur duo était fantastique, j'ai beaucoup apprécié. Ils chantent la solidarité, le partage, le bien-être, la vie au grand air, les produits bio. Ils chantent tout ce qui est cool, quoi. Oh, ça fait du bien, gars, comme ça. Ça remet à l'heure la grande pendule de la vie. Quoi.
Il est où le bonheur?
Il est là, Christophe.
Il est où?
Il est là quand t'es là. Quand t'es pas là, il est là, mais pas vraiment. Il ose pas sortir. Mais dès que tu te pointes, là, il arrive comme un fou. Parce qu'il sait que t'es là et que tu l'aimes le bonheur, alors il est en confiance et il chante avec toi pour ceux qui aimeraient bien que... Mais que non, parce que tant pis si tu vois ce que je veux dire. Putain, Christophe, bon anniversaire. Alors, rien à voir avec Christophe Maé, hein, ce qui va suivre, mais aujourd'hui, c'est la journée mondiale du don d'organes. Voilà. Alors, s'il vous plaît, par pitié, dites non, dites stop à l'égoïsme. L'égoïsme, cette gangrène qui ronge notre société et qui nous rend laid. Laid de ne pas s'enrichir par le dépouillement, laid de ne pas donner à celui qui manque quand on a trop soi-même. Faisons un geste. En cette journée mondiale du don d'organes, soyons généreux. Alors j'en appelle à vous, tous les nantis, tous les opulents qui vous baladez, le regard hautain avec vos deux poumons, vos deux reins et autres testicules surnuméraires. Passez à l'hôpital et donnez. Oui, donnez. Journée mondiale du don d'organes en partenariat avec France Inter et les boucheries Bigard. Allez, assez de mauvais esprits, assez de sarcasme, assez de médisance, soyons positifs. Merde, rendons à présent hommage à une grande dame, oui, une grande dame, une très grande dame, Bernadette Chirac, qui se lâche et qui, notamment hier sur France 2, s'est livrée à de curieuses confidences. Lucide quant aux petits écarts de son mari au niveau matrimonial, elle a dit qu'elle aurait pu en faire autant et avoir, elle aussi, des aventures romantiques. Dit-on, Bernadette, c'est quoi ces révélations dégueulasses? Non, mais une ancienne première dame, en plus. En même temps, on s'en doutait un petit peu. Ah ouais, c'est pas innocent d'être comme ça, invité toutes les trois semaines dans la même émission. Elle a une liaison avec Michel Drucker.
Non.
C'est évident, c'est clair.
Elle l'a dit?
Non, mais c'est moi qui l'ai trouvé, évidemment.
Le vieil rumeur.
Mais bien sûr, si vous êtes vraiment, vraiment vicelard et que vous avez des enregistrements de Vivement Dimanche, là, il faut vraiment être vicelard, hein, ou pas avoir de vie. Repassez-vous certaines scènes au ralenti. Vous verrez dans le regard de Bernadette sur Michel, il y a plus que de la complicité, il y a du vice. Et la réciproque est vraie. L'œil de Drucker posé sur Madame Chirac, c'est celui de Landru sur une cuisinière. On sent le désir brûlant.
Brûlant, oui, c'est ça.
Tellement de connivence, c'est quasiment palpable. Ah, vous la connaissez bien, la Bernadette, vous aussi. Celle qu'on appelle Quatre Feux. Avec les images. Avec les images, on peut presque imaginer le dialogue télépathique.
Vivement que l'émission se termine, j'en peux plus.
T'as raison, c'est une torture, ça n'en finit plus.
On va dans ta loge ou dans la mienne?
Bah la tienne, rappelle-toi, la mienne la dernière fois.
Quoi donc?
Bah, le chien. Oh, quelle horreur. Bon, il y a Drucker, mais c'est pas tout. Rappelez-vous, il y a aussi l'aventure de Bernadette avec son champion. Monsieur Pièce Jaune, David Douillet, ouais. La ceinture noire du TGV de l'amour. Un vrai remake de La Belle et la Bête.
David !
Le cookie.
Oui, je te donnerai un cookie, mais d'abord réponds-moi. Tu m'aimes d'amour ?
Le cookie.
David !
Amour.
Viens là, mon grand faux, viens te rouler avec moi dans les pièces jaunes. Fais-moi valdinguer, fais-moi Uchimata, fais-moi Osotogari, fais-moi, projette-moi partout dans le wagon, immobilise-moi, étrangle-moi.
Une saleté.
Après, les amis, il n'y a pas de mal, hein, c'est que de l'amour, Nagui. On l'appelle Quatre Feux, c'est pas pour rien. À demain.
La bande originale, le meilleur moment sur France Inter.
Vous avez dessiné, justement, enchaînement tout trouvé, merci Daniel Morin, vous avez dessiné l'affiche des 10 ans du musée du Quai Branly, Jacques Chirac. À la question Quai Branly, Jacques Chirac, la réponse est Bernadette. À cette occasion...
Rencontre.
Oh là là, il a fait, mon Dieu. Est-ce qu'on peut couper cette séquence pour les archives? Je vais en avoir besoin de ces quatre.
Comment on appréhende ce genre de entre guillemets, commande? J'imagine que c'est une commande, non?
Oui, avec beaucoup de plaisir, parce qu'en fait, j'adore ce musée. Donc, on me propose souvent de faire des choses un peu comme ça, mais c'est vrai qu'en général, je refuse parce que j'ai pas le temps. Mais là, le musée du Quai Branly, c'est un musée que J'y vais régulièrement depuis que je suis enfant. Et enfin, et je,
bah non, ça quand fait même
10
pas,
ans. Enfin,
bah
oui. Il y a 10 ans, j'avais 7 ans. J'y vais très souvent.
Le mytho. Tout petit, déjà, j'y allais.
Tout petit, déjà, j'y allais.
Ça a 10 ans.
En bananie, on vieillit pas aussi vite.
Ok, c'est ça. Et là, vous avez été président du Salon du Livre des 19e rendez-vous de l'histoire de Blois. Ça s'est fini. En l'occurrence, quel était votre rôle?
En fait, c'était un des trucs les plus... Enfin, c'était assez marrant, mais je pense que je l'ai fait une fois, je le referai pas. En fait, j'ai visité le Salon du Livre avec la ministre de la Culture.
Okay.
En fait, c'était hyper marrant parce que tout le monde connaissait la ministre. Moi, j'étais censé être le président du Salon du Livre. Personne ne savait qui j'étais, donc j'ai vécu des moments de gêne extrêmes. Personne ne me serrait la main. Enfin, c'était. Mais j'ai entreaperçu ce que c'était que d'être un homme politique. Et c'est assez.
Donc plus jamais ça.
Non, je crois pas. Non, okay. Non, je vais faire de la BD.
Voici le brouillon de culture de Leïla Kadourou-Dedi pour Riyad. C'est notre ami.
Cher jardin de Dieu, notre brouillon de culture à tous les deux, histoire d'apprendre à mieux se connaître.
Bah, explique quand même la traduction.
Bah, Riyad veut dire en arabe jardin de Dieu. Voilà. C'est pas mal ça de naître sous cette étoile.
Ça calme.
Hein. Ça calme, ouais, ça claque.
Plus classe que Satouf en français.
C'est vrai, mais la Satoufie, c'est encore un beau, bel univers. Pardon, on va faire un.
C'est un joli jardin de Dieu aussi.
C'est ça. Oh mon Dieu, oui, c'est vrai, le jardinet, comme on disait chez Villon. On commence avec un petit son pour vous, Riyad.
Vous, ça a commencé à quel âge, Albert?
Moi, j'étais gosse parce qu'il y avait des bouquins à la maison, donc je lisais Tintin et Spirou. Et puis après, j'ai arrêté, puis je l'ai redécouvert beaucoup plus tard quand j'étais prof, parce que je me suis aperçu que les gosses adoraient Tintin, et les plus crétins, supposés crétins des enfants, les analphabètes, les sans-mémoire, connaissaient Tintin par cœur, adoraient ça aussi bien les petites filles que les petits garçons.
Tonton Albert.
C'est notre Albert Algou National, c'était en 94, et il expliquait l'utilité pédagogique de Tintin, de la bande dessinée en général, et je crois que l'élève et l'enfant que vous étiez, Riyad, peut se reconnaître dans ce discours.
Ah oui, moi j'ai adoré Tintin et je l'aime toujours beaucoup, notamment aussi pour ses côtés très sombres, les stéréotypes qu'il peut véhiculer. En fait, je trouve ça très positif de les apprendre dans ses bandes dessinées. C'est-à-dire la façon dont il décrit dans Tintin au Congo l'état d'esprit colonial de l'Occident à cette époque-là est un truc qu'on m'a pas appris à l'école, par exemple.
Alors, et le fait de se rendre compte de ça, c'est... Quand je vanne Albert là-dessus, il dit oui, mais Hergé a changé après.
Peut-être, mais en même temps, il a regardé ce truc-là. Et en fait, en effet, je pense qu'à l'époque de Tintin au Congo, tout le monde pensait, la majorité des gens pensaient comme ça, c'est terrorisant.
Ça reflète en tout cas.
C'est l'erreur intellectuelle occidentale est très... Et c'est bien que ça reste... Enfin, il faut l'analyser, bien sûr.
Mais de même que l'absence des filles et des femmes dans les albums d'Hergé. Oui. C'est quelque chose qui vous a marqué, vous, adolescent.
Sauf la Castafiore. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que j'aimais passionnément une BD dans laquelle il n'y avait aucune fille. C'est quand même très étrange.
Oh, puis votre premier baiser sur la bouche, il est dans l'Arabe du Futur 3.
Bah ouais.
Et oui.
C'est chaud d'ailleurs.
Ouais, c'était assez chaud. Ah ouais.
En tout cas, juste pour rappel, je sais pas si vous l'avez vu, cette exposition consacrée à Hergé au Grand Palais.
Magnifique.
Elle vous a plu?
Ouais, c'est génial. D'ailleurs, je fais une petite conférence ce soir là-bas.
Enfin,
je
fais une pub. Bah, voilà. Mais très
vous,
bien.
Ils vous laissent rentrer, ils vous reconnaissent.
J'ai mon nom sur la liste.
Et s'il fallait citer un album d'Hergé, des aventures de Tintin qui vous est fétiche?
Alors c'était Tintin et l'or noir, une dernière version, parce qu'il y avait, de l'arabe écrit dedans, en vrai arabe, et ça faisait hurler de rire mes cousins syriens, parce qu'on peut lire en arabe Ibn el Kalb, c'est-à-dire fils de chien. Et donc quand mes cousins lisaient ce passage en arabe dans Tintin, ils étaient explosés de rire. En plus, ils se traitent de bédouins mutuellement. Enfin, c'est
voilà,
très...
si vous voulez une petite insulte en arabe,
c'était très...
Ibn el Kalb, fils de chien. Voilà, ça c'est fait.
Ibn el Kalb. Voilà. Ouais, c'est ma préférée.
Mais est-ce qu'il... D'ailleurs, des papas peuvent insulter leur propre fils.
Je confirme.
Oui, non, mais moi aussi. En faisant fils de chien, c'est voilà.
C'est un truc usuel.
Ah
au
non,
quotidien.
Mais moi, ça m'a tellement fait rire quand j'ai compris après que mon père, quand il m'engueulait, en fait, s'insultait, que moi, ça me faisait.
Eh bien, moi, j'embrasse ma maman qui me le disait très souvent. Voilà. Et je disais, mais enfin, c'est dégueulasse pour papa. Mais oui, c'est une blague, Leïla. On poursuit avec un autre son pour vous, Riyad.
C'était à un âge, quand même, à 14 ans, où on essaie quand même d'être beau. Aussi, mais c'est-à-dire qu'on essaie de s'affirmer un peu dans sa virilité et tout ça, dans un truc. Et là, quand, en effet, il y a un film où on passe une heure et demie à se branler dans une chaussette, en effet, ensuite,
c'est
pour séduire des femmes, c'est pas évident.
Voilà, c'est Vincent Lacoste à ce micro dans la bande originale qui parlait des beaux gosses et de la façon assez intime finalement dont il avait pu vivre cette expérience et surtout cette notoriété qui lui est tombée dessus tout de suite. Est-ce que vous, en tant que réalisateur, quand vous êtes parti dans cette aventure, vous aviez conscience aussi de la répercussion pour un jeune homme comme Vincent Lacoste ?
Moi, je pensais, oui, qu'il deviendrait un acteur, parce qu'il avait vraiment le détachement par rapport à ça qui fait qu'il peut durer. C'est-à-dire, il ne désirait pas de toute son âme être acteur. Mm-hmm. Donc en fait, il n'était pas crispé sur l'objectif. En fait. C'est vrai que maintenant, c'est marrant de le voir à l'affiche de plein de films.
Ça va bien avec sa nonchalance, ouais. Et les rôles qu'il joue, justement.
Et quand je marche dans la rue avec lui, parce que là, il se plaint qu'il n'avait pas de succès avec les filles à 14 ans, mais maintenant, dans la rue, c'est incroyable.
Oui, ça va, maman.
C'est hallucinant.
Dans le dernier film de Justine Triet, dans Victoria, il a grandi, il devient très...
C'est un homme belâtre.
Oh, carrément. Il devient
un sexe symbole. C'est quand même incroyable.
Ah bah, il y a même une scène d'amour extrêmement torride.
Carrément, je valide.
Limite.
C'est pour ça que bon, Pascal Brutal avec un peu de muscu, ça peut peut-être passer.
Mais il faut le motiver à aller à la salle de muscu.
Il faut qu'il mange des bananes.
Il faut qu'il mange des bananes.
On poursuit un petit dernier son.
À mon sens, c'est la meilleure BD de Riyad Sattouf ever. Et pourtant, j'ai tout lu de lui et j'aime tout. J'aime ses films, j'aime ses livres, mais alors vraiment, celle-là, elle est un cran au-dessus du reste. Je sais même pas par où commencer.
Vous avez reconnu la voix de Pénélope Bagieux, qui est une auteure de bande dessinée que j'adore, qui sort d'ailleurs Les Culottés, qui est un
génial,
très très bel album,
BD, ouais.
qui met en valeur et en lumière des personnages féminins dans l'histoire, qui ne sont pas souvent notés, qui ont été vraiment des pionnières dans leur domaine. Et elle parle de l'Arabe du futur. Je trouve que c'est quand même assez rare pour être souligné dans le milieu artistique, un tel bel esprit que Pénélope elle-même, qui fait des BD qui en vend, vous rend hommage comme ça.
Non, mais ça me touche beaucoup. Mais c'est vrai que c'est une grande auteure de bande... Enfin, Culottée, c'est une bande dessinée extraordinaire. Elle raconte en fait des destins de femmes qui ne se sont pas laissées faire par le milieu macho dans lequel elle... Et je pense que c'est le meilleur cadeau qu'on peut...
Votre maman aurait pu être dans cette série ?
Bon, peut-être pas.
Bah, ouais, aussi, pas
peut-être
trop
bien,
fait,
oui, mais faut, dans la suite. Enfin, vous verrez dans la suite.
À chaque émission, chaque fois qu'il vient ici, chaque fois il dit, vous verrez Nagui dans la suite. Il arrête pas de faire des comics.
Là, c'est des personnages historiques dans Les Culottés. Ça vaut vraiment le coup de lire cette bande dessinée.
Super.
Et puis, on retrouve là dans votre discours votre engagement, que ce soit pour le prix de la bande dessinée Angoulême, où vous aviez fait remarquer qu'il n'y avait pas de femmes dans le palmarès. Et cet engagement est tout à votre honneur. Je finis par un petit cadeau, Conseil Culture. C'est une collection que j'aime beaucoup. C'est la petite BDTech des savoirs. C'est comment aborder un sujet à travers la bande dessinée. De même que vous le faites via l'autobiographie. Là, je vous offre le minimalisme et l'histoire de la prostitution, qui est vachement bien fait. Et je me dis que que vous, Riyad Sattouf, vous parvenez via l'autobiographie à intéresser à votre destin, mais aussi, moi j'ai appris plein de choses sur l'histoire de l'Arabie Saoudite notamment. Et bien cette collection-là, il y a beaucoup de thèmes, il y a le féminisme qui vient de sortir, qui est assez génial. Voilà, c'est mon petit cadeau pour vous. Je sais que vous ne lisez pas beaucoup de BD. Et puis un petit dernier, parce que parfois vous publiez des choses sur Twitter, on se suit mutuellement.
Très
et vous
drôle.
Faites beaucoup rire.
La couverture de ce livre est très drôle déjà.
C'est Publicité détournée d'Olivier Darmon, édition Ebeck. Et c'est un pot de Nutella.
Qui s'appelle Gras du Bide.
Gras du Bide. Et en fait, c'est que des pubs détournées. Il y en a deux qui sont géniales. Vous savez, il y a toute une campagne pour recruter des enseignants. Et si c'était vous? Et là, ça devient qui veut être à la fois enseignant, animateur, infirmier, policier, assistante sociale, psychologue, secrétaire, parent de substitution, médiateur familial, trésorier et se faire traiter de feignasse. Voilà. Ça m'a beaucoup fait rire. Ça, c'est Ebeck. Et la petite dernière qui m'a fait beaucoup rire, c'est une parodie d'une publicité, enfin, d'un slogan de François Mitterrand, le socialisme, une idée qui fait son chemin. Et ça devient la même publicité avec François Hollande, le socialisme, une idée qui a perdu son chemin. Voilà, ça, c'est pour
Merci.
Vous, Riyad.
C'est
beaucoup trop bien.
France Inter, la bande originale, le best-of, avec Nagui.
C'est le Seine-Saint-Denis style. Faites du bruit pour LJ.
Prends la ligne D du RER et R dans les rues sévères d'une ville pleine de caractère. Prends la ligne 13 du métro et va bouffer au McDo dans les bistrots d'une ville pleine de bonnes go et de gros clandos. Saint-Denis, ville sans égal. Saint-Denis, ma capitale. Saint-Denis, ville peu banale.
à Carrefour. Tu peux même acheter de la choucroute.
Halal !
J'espère qu'on vous a convaincu. Mais si vous nous traitez de parisiennes, je vous enfonce mon archède !
Ouais !
En plein sur France Inter !
Dans ta voiture, dans ta maison, dans les bouchons, lève tes mains en l'air !
C'est le nouveau phénoménal freestyle. Je visage pas le partout et de retour au Artout. C'est parti, ça vient de Saint-Denis direct. Issu de la génération funky tac, il n'y a pas de soucis.
Non, pas de chippy ici, pas de chichi si tu dérapes, on te
chie dessus. Trop de blabla, trop de plagiat.
Trop de merde sont étiquetés, peurs, mais c'est comme ça qu'on nique tout.
Le bénéfice, le business, mais c'est pendant qu'on laisse couler que les pédales s'engraissent.
Et ceux qui ne voient le hip-hop qu'avec des samples de pop, mais tout cela je les sors à base de pop, 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 sen, sen, is down.
Coudons ton chien n'est pas mal à base de pop, 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 pop. Et pour le hip-hop, je développe la sen, sen, ni, c'est de la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré, ça se reconnaît au débit.
Sen, sen, is down.
Coudons ton chien n'est pas mal à base de pop, 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 pop. Et pour le hip-hop, je développe la Seine-Saint-Denis, c'est de la bombe bébé. Et si t'as le pédigré, ça se reconnaît au débit. Saint-Denis, Saint-Denis, fond, fond, qui fraîche. Saint-Denis, Saint-Denis, fond, fond, qui fraîche. La bombe bébé pompe, ça vient de Saint-Denis. Tu reconnais la race, alors fais-toi tout ça tout petit.
Quand le double R déboule pour te mettre l'enfer,
tu crois que tu les agrosses,
mais teste pas.
Double R,
le tonnerre,
l'expert de la maison mère.
Qui tu la feras
pas à l'envers, négro c'est clair.
Je suis ici, soupe à bœuf,
pick up à Nagui.
Tu trouveras pas mon pareil à des kilomètres, c'est ça que t'aimes chez moi.
Je me la raconte pour le 9-3, faut que je mette les MC aux abos.
Je suis ambition, mais je lâche pas.
C'est clair que je vis que pour ça, et puis que je pense que comme ça.
Je bouge pas depuis le temps que j'envoie,
je balance des mondes pour toi. Sans vanter, je peux chanter
que je roule avec un trou déjanté.
Prends tes jambes à ton cou, Seine-Saint-Denisou.
Seine-Saint-Denisou.
Coudons ton gilet pas mal à base de pop, 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 pop. Et pour le hip-hop, je développe la Seine-Saint-Denis, c'est de la bombe bébé. Et si t'as le pédigré, ça se reconnaît au débit.
Seine-Saint-Denisou.
Coudons ton gilet pas mal à base de pop, 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 pop. Et pour le hip-hop, je développe la Seine-Saint-Denis, c'est de la bombe bébé. Et si t'as le pédigré, ça se reconnaît au débit.
Seine-Saint-Denisou.
Coudons ton gilet pas mal à base de pop, 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 pop. Et pour le hip-hop, je développe la Seine-Saint-Denis, c'est de la bombe bébé. Et si t'as le pédigré, ça se reconnaît au débit.
Le meilleur de la bande originale, c'est fini pour aujourd'hui. Passez une bonne journée. On reviendra demain, même heure, même endroit, avec Philippe Besson, Mazarine Pinjot, Pierre-François Martin Laval, autrement dit PEF, et en live, Imani, Tété et Soul.